Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, qui est actuellement à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Merci Nicolas Metzdorf d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cette folle semaine politique. Alors nous allons parler bien sûr des conséquences pour la Nouvelle-Calédonie et sur les scénarios possibles, alors que la Calédonie a été érigée comme priorité nationale par le Premier ministre démissionnaire. Mais auparavant, dites-nous comment vous avez vécu ces rebondissements politiques. On parle de crise inédite, de crise de régime. Est-ce que c'est aussi votre analyse ?
Écoutez, moi je les ai vécus avec une forme de stupéfaction, parce que je trouve que c'est assez irresponsable de la part des élites parisiennes de faire ce qu'ils font, surtout quand on connaît l'urgence de la situation à la fois en métropole et bien évidemment en particulier en Nouvelle-Calédonie. Donc moi je suis atterré de voir que on ne pense pas aux Français à leur quotidien et notamment aux Calédoniens qui attendent un accord politique validé par l'Assemblée nationale pour pouvoir rebondir économiquement et socialement. Donc mon rôle à moi dans cette période-là, c'est de faire en sorte que un maximum d'acteurs politiques prennent conscience de l'urgence de la situation et de l'urgence surtout d'apaiser les choses, de stabiliser politiquement les choses pour qu'on puisse avancer.
Alors vous vous étiez réjoui de la nomination de Sébastien Lecornu, du maintien de Van Elvaz aux Outre-mer. Quelle a été votre réaction lundi quand Sébastien Lecornu a annoncé sa démission ? Et est-ce que vous avez compris pourquoi il estimait que les conditions n'étaient pas réunies ?
Écoutez, je l'ai appris comme tout le monde via la presse, en direct sur les chaînes info. J'ai été bien sûr tout de suite découragé parce que Sébastien Lecornu, pour nous, c'était clairement un bon choix. Ensuite, est-ce qu'il a bien fait de démissionner ? Moi, je pense à titre personnel qu'il aurait pu rester. Mais s'il a pris la décision de partir, c'est qu'il lui considérait que la tâche était trop difficile pour un macroniste, entre guillemets, d'opérer cette fonction-là à ce moment-là de la crise politique.
Alors, il y a eu d'autres rebondissements dans cette semaine, et notamment après sa démission, Sébastien Lecornu a été chargé de mener d'ultimes négociations pour aboutir à une plateforme d'action pour la stabilité du pays. C'est la mission que lui a confiée Emmanuel Macron. Et il a choisi de concentrer les négociations sur deux sujets, le budget et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ça vous a surpris que la Calédonie apparaisse dans une crise pareille comme une priorité nationale ?
Non, ça n'a pas été une surprise, ça a été une satisfaction. On a beaucoup œuvré pour ça, de manière à ce que les textes qui concernent la stabilité de la Nouvelle-Calédonie ne soient pas oubliés dans la crise que traverse la classe politique parisienne. Alors évidemment, c'est malheureusement valorisant le fait que la Calédonie soit mise en avant dans cette crise. On aurait aimé être un territoire normal qui n'ait pas besoin de traitement particulier. Mais comme il en faut un, on peut se réjouir que Sébastien Lecornu, on ait pris la dimension, mais on ne s'attendait pas à moins avec lui. Donc l'idée, avec cette déclaration du Premier ministre, enfin de Sébastien Lecornu, c'est moi de m'appuyer là-dessus pour expliquer la situation à tout le monde ici.
Vous avez eu plusieurs contacts pendant cette semaine. On sait que vous avez eu notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, mais vous avez eu d'autres contacts avec la classe politique ?
Oui, bah avec quasiment tout le monde, hein, Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale, les groupes politiques à l'Assemblée nationale, les sénateurs, enfin le tout Paris politique évidemment. Moi, ce que j'aimerais expliquer à Radio Rythme Bleu et aux Calédoniens qui nous écoutent, c'est pourquoi c'est important que la Calédonie soit traitée à ce moment-là de l'histoire et rapidement à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'accord que nous avons trouvé à Bougival n'est pour l'instant qu'un accord politique. Ce n'est pas encore le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Pour que ça soit le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, il faut que les textes soient votés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, il y a plusieurs textes qui sont en attente. Il y a d'abord et avant toute chose le texte qui permet de décaler les élections provinciales du 30 novembre à l'année prochaine, à mi-2026. Pourquoi c'est important de les décaler, ces élections provinciales? Parce que déjà, on ne peut pas les tenir dans de bonnes conditions tout de suite, et on a vu ce que ça donnait aux élections législatives. Et la deuxième chose, c'est que, comme le Conseil constitutionnel l'a précisé, si on devait tenir ces élections provinciales maintenant, elles se tiendraient avec un corps électoral gelé. Or, l'accord de Bougival que nous avons trouvé, lui permet une ouverture du corps électoral. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de faire voter l'accord de Bougival avant les prochaines élections provinciales. Mais le temps nous est compté, puisque si on ne fait pas voter la loi de décalage des élections provinciales, elles doivent se tenir dans un mois et demi. Donc on a peu de temps devant nous. Et toute instabilité en métropole, toute dissolution, toute censure à nouveau du gouvernement, toute démission du président de la République, en fait, ferait tomber la possibilité d'adopter ce texte avant la tenue des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, et donc nous forcerait à aller aux élections avec un corps électoral gelé, ce qui ne correspond pas évidemment aux valeurs humaines, aux valeurs démocratiques et aux résultats des trois référendums.
Ça, on peut le comprendre, mais justement, la crise n'est pas finie. Sébastien Lecornu a annoncé mercredi soir à Paris, jeudi matin pour nous, qu'il y aurait un nouveau Premier ministre dans les 48 heures. Est-ce que vous attendez vraiment la nomination d'un nouveau Premier ministre, la composition rapide de son gouvernement? Ça permettrait quand même d'adopter notamment la proposition de loi de report des provinciales dans les temps?
Il suffirait d'avoir un Premier ministre. On n'est pas obligé d'avoir l'ensemble du gouvernement en formation pour que la loi puisse être examinée. Il y a même une note qui existe du secrétariat général du gouvernement qui explique que même avec un gouvernement démissionnaire, on pourrait passer cette loi en affaires courantes. Mais évidemment, ça comporte plus de risques juridiques que s'il y a un Premier ministre. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'un Premier ministre soit nommé rapidement pour qu'on puisse étudier cette loi. Donc ça, c'est pour, on va dire, l'aspect institutionnel de l'urgence calédonienne, hein, c'est de faire passer nos lois. Et ensuite, il y a une deuxième urgence qui concerne la Nouvelle-Calédonie, c'est bien évidemment le budget de la France, puisque nous sommes très dépendants du budget de l'État. Or, le budget de l'État, les aides qui sont versées à la Nouvelle-Calédonie, sont des aides qui sont budgétées tous les ans. Dans le texte que l'on vote, ce qu'on appelle le projet de loi de finances, qui est le budget de la France voté à l'Assemblée nationale. Or, s'il n'y a pas de gouvernement, la France est en incapacité de voter son budget. Alors, évidemment, elle se retrouverait complètement freinée dans son fonctionnement, mais pire pour nous, la Nouvelle-Calédonie, sans budget de l'État voté dans les semaines qui arrivent, il n'y aurait aucune aide pour la Nouvelle-Calédonie en 2026. Et ce que nous a annoncé le gouvernement d'Alcide Ponga et de Christopher Gigès, c'est que la Nouvelle-Calédonie a perdu un quart de ses recettes fiscales pour 2026. C'est-à-dire qu'il manque quasiment 50 milliards de francs pacifiques pour équilibrer les comptes, c'est-à-dire pour financer nos régimes sociaux, pour financer nos services publics, pour financer nos aides aux entreprises. Donc on voit bien que ce qui se passe à Paris aujourd'hui impacte directement le quotidien des Calédoniens, à la fois sur un accord institutionnel qui permettrait de redonner des perspectives, et aussi sur la question de soutien économique à nos collectivités et à nos entreprises.
C'est manifestement ce qu'avait bien compris, ce dont a bien conscience Sébastien Lecornu, c'est pour ça qu'il a mis la Calédonie comme urgence. Est-ce qu'un autre Premier ministre aura cette même prise de conscience? Et est-ce que vous avez une idée d'ores et déjà du profil qu'il pourrait avoir, ou en tout cas du profil que vous souhaiteriez qu'il ait?
Alors ça, ça fait partie de notre travail je réponds d'abord à votre première question, de faire en sorte que le futur Premier ministre ait la même préoccupation pour la Nouvelle-Calédonie que Sébastien Lecornu. Ça sera certainement pas le cas parce que Sébastien Lecornu, comme je le disais, était le meilleur des choix pour nous. Ça risque d'être quelqu'un qui connaît moins le dossier, donc on va avoir un rôle particulier à tenir ici à Paris pour faire passer les messages sur l'importance du dossier calédonien. Alors maintenant, qui ça va être? Alors il y a moi ce que je voudrais et il y a ce qui risque de se passer. Moi, ce que je voudrais, c'est un homme de droite. C'est-à-dire que je voudrais un Premier ministre de droite qui puisse gouverner la France avec des orientations qui me vont et qui correspondent à ma ligne politique. Or, ce qui semble se profiler, c'est qu'on va avoir un Premier ministre soit de tendance de gauche, pour aller chercher une majorité avec la gauche, soit plutôt avec un profil technique, pas politique, comme l'avait annoncé Sébastien Lecornu à son JT de France 2, pour avoir un gouvernement, on va dire, plutôt bureaucratique pour préparer le budget.
Selon vous, le retour de Sébastien Lecornu est complètement inenvisageable. Ça ne semble pas complètement écarté.
Non, ça ne semble pas écarté. Pour autant, j'ai l'impression que Sébastien Lecornu n'en veut pas trop. C'est ce qu'il laisse transparaître de ses interventions. Alors, évidemment que pour nous, ça serait une vraie satisfaction et un vrai soulagement de revoir Sébastien Lecornu à Matignon. Mais il me semble aujourd'hui que les chances sont assez faibles.
Et les chances de retrouver Manuel Valls, rue Oudinot, ça vous paraît également une possibilité aujourd'hui? Est-ce que quel que soit le futur Premier ministre, on peut penser qu'ils laisseront les Outre-mer à Manuel Valls?
Je pense que ça va être difficile aussi pour Manuel Valls, parce que Manuel Valls, quand bien même vient de la gauche, du Parti socialiste, est quelqu'un qui a quitté la gauche pour rejoindre Emmanuel Macron. Et donc, la gauche lui en veut beaucoup. Et donc, si on a un gouvernement qui serait plutôt de tendance socialiste, certainement qu'il ne voudrait pas de Manuel Valls aux Outre-mer.
Donc, encore beaucoup d'incertitudes. On a vu que la date limite pour la promulgation de la loi de report des élections provinciales, si tant est qu'elle peut être examinée et adoptée par le Parlement, c'est le 2 novembre. Sinon, le scrutin devra obligatoirement être organisé avant la fin du mois de novembre. C'est une hypothèse qu'il faut encore garder en tête.
C'est une hypothèse qu'il faut garder en tête, mais là je vais prendre une position politique. C'est pour moi inenvisageable, après les trois référendums, après les émeutes, après l'accord de Bougival, après la signature de tous, d'aller aux élections provinciales avec un corps électoral qui soit gelé.
Et
Je
comment?
ne comprendrai pas que l'on accepte que des milliers de Calédoniens qui payent leurs impôts en Nouvelle-Calédonie soient exclus du droit de vote pour des élections qui se tiennent 4 ans après le dernier référendum.
Et comment est-ce que vous auriez la possibilité de vous y opposer si effectivement le calendrier n'est pas tenu, s'il n'y a pas de Premier ministre, s'il n'y a pas de gouvernement, ou s'il n'y a pas le temps d'adopter ce texte par le Sénat et par l'Assemblée nationale?
Pour l'instant, je me concentre sur le fait que la loi qui décale les élections puisse être adoptée. Je n'envisage pas d'autres scénarios. À l'heure actuelle, mon énergie au quotidien est consacrée à ça. Si jamais ça ne pouvait pas être le cas, je pense que nous devrions nous réunir les leaders non indépendantistes pour réfléchir à ce qu'on pourrait envisager comme action politique et juridique sur le sujet.
Alors, à l'inverse, votre collègue Emmanuel Tchibaou rejette ce report des élections provinciales. Il a répété son opposition. C'est aussi la position, sans surprise, du sénateur Robert Rooy. Est-ce que, dans tous les cas, ça peut compliquer l'adoption du texte, étant donné qu'ils peuvent peut-être convaincre leurs collègues respectifs à l'Assemblée nationale et au Sénat?
Ça complique évidemment les choses, puisque sur quatre parlementaires calédoniens, deux sont clairement indépendantistes et indépendantistes de tendance FLNKS. Et donc, c'est sûr que ça aurait été mieux, je le dis comme je le pense, que l'ensemble des parlementaires soient des parlementaires non indépendantistes. Donc, ça ne va pas nous faciliter la tâche. Pourquoi le FLNKS CCAT veut accélérer l'organisation des élections provinciales malgré l'accord de Bougival, c'est parce qu'il compte sur des élections avec un corps électoral qui est gelé, de manière à ce qu'il soit favorisé dans les trois provinces pour prendre une majorité absolue sur la base des personnes que la CCAT a fait fuir lors des émeutes de mai 2024.
Et dans quel état d'esprit vous semble votre collègue indépendantiste Emmanuel Tchibaou? Après la nomination de Sébastien Lecornu, il parlait de la nécessité du dialogue, de la nécessité de rechercher un consensus. Vous interprétez ça comment? Ça veut dire que le nouveau FLN 15 voudrait réouvrir des discussions?
Écoutez, Emmanuel Tchibaou, il a un positionnement qui est aujourd'hui pas très lisible, puisqu'il parle de dialoguer, de réouvrir les négociations, et en même temps, il souhaite qu'on aille aux élections, ce qui nous empêcherait d'avoir un dialogue serein qu'on pourrait reprendre dans les prochaines semaines, puisque tout le monde partirait en campagne. Si on veut avoir un dialogue serein, et c'est notre cas, nous on est pour que les discussions continuent, les discussions reprennent. Nous, les loyalistes, nous avons dit que nous pouvions toujours discuter de l'accord de Bougival lors des comités de rédaction. C'est ce qu'on a déjà fait lors du premier comité de rédaction sur le projet de loi constitutionnelle. On peut continuer à le faire sur la loi organique spéciale et la loi fondamentale. Il n'y a aucun souci pour ça. La porte n'est pas fermée du tout. Mais si on organise des élections dans un mois, clairement, l'ambiance ne va pas être au dialogue.
Et en plus, il y a un autre texte dont on n'a pas encore parlé, mais qui est quand même très urgent lui aussi, c'est le projet de loi constitutionnelle. Il devait être examiné par le Conseil des ministres, c'est toujours pas le cas. Est-ce qu'on est encore dans les délais pour une réunion du Congrès de Versailles avant la fin de l'année, ou est-ce qu'il faut l'oublier ?
Avant la fin de l'année, me paraît ambitieux. Tout va dépendre de comment on avance sur le projet de loi organique décalant les élections. Parce que vous savez que pour modifier la Constitution, il y a une étape de plus, hein, par définition, c'est le Congrès de Versailles. C'est-à-dire qu'il faut que le texte soit voté au Sénat, à l'Assemblée nationale, et ensuite par le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en Congrès au château de Versailles. Donc ce sont des délais qui sont très longs. Et cette modification de la Constitution, c'est elle qui permet à la fois d'entériner l'accord de Bougival et de permettre la consultation, l'organisation de la consultation des Calédoniens pour savoir s'ils veulent dire oui ou non à l'accord de Bougival.
Par ailleurs, la crise politique dont on parlait tout à l'heure, la crise politique nationale, n'est pas encore complètement terminée. Sébastien Lecornu a annoncé la nomination d'un Premier ministre dans les 48 heures, mais est-ce qu'il écarte pour l'instant la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est une hypothèse qu'il faut quand même avoir encore en tête? Est-ce qu'il y a il y a un certain nombre de responsables politiques qui la réclament encore? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours ce risque d'une dissolution?
Oui, le risque de la dissolution, de toute façon, continuera de planer maintenant jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. L'Assemblée est si instable qu'elle prend le risque effectivement de devoir se renouveler à chaque instant. Pour l'instant, elle semble écartée à court terme parce que les conclusions de Sébastien Lecornu sont de dire qu'un chemin est possible pour un gouvernement pour voter le budget. Mais je ne sais pas si le budget va aller au bout et je ne sais pas si après le budget, il n'y aura pas une dissolution sur un autre sujet. Donc clairement, c'est aujourd'hui un risque qu'il y a. Alors moi, ça ne me dérange pas plus que ça si c'est une fois que les textes concernant la Calédonie sont votés. Moi, ce qui me dérangerait dans une dissolution, c'est qu'elle arrive maintenant et ça annihilerait, ça empêcherait tous nos textes d'être adoptés à l'Assemblée nationale. Et donc là, on irait aux élections provinciales comme c'est prévu pour l'instant.
Alors certains ont aussi réclamé ces derniers jours la démission d'Emmanuel Macron. Comme député Renaissance, qu'est-ce que vous avez pensé du débat qu'il y a eu à l'intérieur de votre groupe? Enfin, on pense aux propos de Gabriel Attal ou d'Édouard Philippe qui ont donné l'impression de lâcher le président de la République. Vous l'avez vécu comment?
Écoutez, moi, je fais partie de ceux qui essayent de ne pas hurler avec les loups dans la période actuelle parce que, comme je le disais, on a une particularité en Nouvelle-Calédonie et on a besoin de la stabilité en métropole. Moi, je considère que Emmanuel Macron ne sera plus président de la République, il ne peut plus se présenter, que la France aura bientôt un nouveau visage et une orientation politique. J'ai jamais été très fan des démissions de président de la République si en fonction des opinions publiques, parce que ça voudrait dire que on pourrait faire démissionner n'importe qui à n'importe quel moment parce que il a une opinion qui lui est défavorable, et donc on rentrerait là encore dans une forme de chaos institutionnel permanent. Donc moi, je ne suis pas pour la démission du président de la République, je suis pour qu'il finisse son mandat. Et ensuite, je pense que le macronisme se terminera avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire que chacun ensuite repartira dans ses familles politiques d'origine, parce que le macronisme, c'était des gens de droite et de gauche qui se rassemblent pour essayer d'avancer ensemble. Je crois qu'on arrive à la fin de l'exercice, tout le monde le sait ici, et je crois qu'on retrouvera un clivage droite-gauche plus classique. Moi, ce que j'espère, c'est que il y ait ensuite une union des droites qui est sollicitée par plusieurs personnalités politiques nationales, et moi, j'intégrerai cette union des droites si je suis encore député ou même au niveau calédonien.
Nikamenov, pour conclure, donc ça a été un peu la montagne russe des sentiments cette semaine, avec des rebondissements, des coups de théâtre. Dans quel état d'esprit aujourd'hui, ce soir pour vous, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous pensez que les Calédoniens, que les incertitudes calédoniennes vont se lever dans les prochains jours?
Écoutez, je suis concentré là-dessus. Mon objectif est qu'on puisse dire aux Calédoniens quelles sont les perspectives et quel est leur avenir dans les prochaines semaines. Je suis focalisé uniquement là-dessus. C'est pour ça que j'ai tenu à dire, et sur votre antenne d'ailleurs, plusieurs fois, que je sais qu'il y a un débat national qui est prenant, qui est intéressant, qui est stimulant intellectuellement, parce que qui dit crise politique dit crise idéologique, et donc ça fait réfléchir tout le monde et ça passionne tout le monde. Et je me dois de dire que nous, en Nouvelle-Calédonie, ce territoire de la France du bout du monde, on a une problématique particulière qui doit nous inciter à penser à nous et à notre quotidien aujourd'hui. Je crois que les Calédoniens souffrent trop de la crise économique et sociale. Hein. On voit bien avec les usines de nickel qui ont fermé, soit risquent de fermer. On le voit bien avec les entreprises qui continuent de fermer. On le voit bien avec le chômage qui augmente, avec les politiques publiques qui ne sont plus d'aussi bonne qualité qu'auparavant. Je crois que nous, on a besoin d'unité, les Calédoniens, sur le sujet national, pour dire à la France, attention, nous, on est dans une situation telle que votre instabilité à Paris ne nous concerne pas. Nous, on a besoin déjà de réparer les maux du 13 mai 2024. Et ça passe par une forme, comme je le disais, de responsabilité à avoir de la part des politiques français et nationaux. Voilà, donc moi, c'est mon discours ici que je tiens à Paris, et c'est le message que je passe aux Calédoniens. Attention à ne pas tomber dans le débat national qui, aujourd'hui, finalement, nous empêche d'avancer.
Et votre combat pour les prochains jours, c'est d'obtenir l'adoption de la loi sur le report des provinciales.
C'est clairement l'objectif fixé, parce que je rappelle aussi que c'est le choix, et ce n'est pas un combat indépendantiste contre non-indépendantiste, c'est le choix d'une grande majorité des groupes politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Tous les groupes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Loyalistes, Rassemblement, Calédonie Ensemble, Éveil Océanien, Unipalika, ont voté pour ce report des élections provinciales. Les seuls qui n'ont pas voté pour ce report, c'est le FLNKS-CCAP. Donc, le combat du report des élections provinciales, ce n'est pas Nicolas Metzdorf contre le reste du monde, ce n'est pas les non-indépendantistes contre les indépendantistes, c'est ceux qui veulent reconstruire la Calédonie, ceux qui veulent qu'elle avance, contre quelque part ceux qui veulent, encore une fois, miser sur le chaos politique pour obtenir l'indépendance par la France.
Eh bien, Nicolas Metzdorf, merci pour cette analyse. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence. Et on attend bien sûr la suite, puisque d'ici moins de 48 heures maintenant, Emmanuel Macron doit nommer un nouveau Premier ministre.
Merci beaucoup.